Salut, c'est Lucie, c'est le début de l'émission d'information locale et au sommaire aujourd'hui, l'info du jour, deux actualités pour l'Institut du Gallo au cinéma et puis sur les bancs de l'école, un reportage, le troisième et dernier épisode, la série réalisée par Elvire sur le thème Habiter et vieillir à Rennes, il y aura de la musique dont une nouveauté, une interview bilan toujours avec Elvire sur le même sujet donc en compagnie d'Armel Billard du département d'Ille-et-Vilaine et puis recommandation pour finir, la fête de la musique, bienvenue dans l'arène.
Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je vais vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Comme chaque jour, on commence avec l'info que j'ai retenue pour vous. Là, c'est l'Institut du Gallo qui fait aboutir deux gros projets cette semaine. D'abord, la finalisation du doublage en gallo d'un premier long métrage d'animation. Il y avait déjà eu plusieurs courts métrages avant ça. Cette fois, il s'agit d'Astérix, le domaine des dieux, un film réalisé par Alexandre Astier et Louis Clichy en 2014. Je plante le décor, nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains, enfin presque toute, car un village peuplé d'irréductibles gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Exaspéré par la situation, Jules César décide de changer de tactique. Puisque ses armées sont incapables de s'imposer par la force, c'est la civilisation romaine elle-même qui saura séduire ces barbares gaulois avec la construction près du village d'un domaine résidentiel luxueux, le domaine des dieux. L'opération de doublage de ce film elle a été financée par la région Bretagne. C'est l'Institut du Gallo qui a adapté les dialogues et le doublage a lui été réalisé par le studio quimpérois d'Isalée. Le résultat est à découvrir en salle avec une projection en avant-première jeudi 22 juin à 20h30. Ça se passe à l'Arvor ici à Rennes. Un échange est prévu avec les doubleurs à l'issue de la séance. Une séance en 3D, on précise, avec des sous-titres en français pour toucher un autre public que les 191 000 locuteurs galaisans sur le territoire. Ça a été comptabilisé en 2018. La seconde actualité pour l'Institut du Gallo, dont les bureaux sont situés à Montgermont, tout près de Rennes, c'est la certification en langue gallaise de 12 premiers élèves. C'est en effet l'une des missions de cet institut créé en 2017 avec d'autres missions de traduction et de développement d'une charte. La mission d'enseignement et de certification dont on parle là, elle est menée depuis 2 ans en partenariat avec la région Bretagne et puis le rectorat de Rennes. À destination d'un public enseignant, mais pas uniquement, l'épreuve a été ouverte au grand public et consiste sur une durée de 2 heures à évaluer 5 compétences, compréhension écrite et orale, expression écrite et orale et puis interaction. Un certificat valorisé ensuite notamment dans un cadre professionnel. Après cette info du jour, c'est l'heure d'un reportage long format. Et ce reportage, c'est le troisième et dernier épisode d'une série réalisée par Elvire Moreau, volontaire en service civique qui vient de terminer son volontariat. Encore bravo à elle pour son travail mené à Canal B durant toute l'année. Dans cette série, elle a exploré le thème habiter et vieillir à Rennes avec un focus aujourd'hui sur l'accueil familial quand on choisit d'habiter chez l'autre. Rencontre avec Patrice et Cécile qui accueillent Patrick à leur domicile et puis plus d'infos sur le dispositif avec le département d'Ille-et-Vilaine.
C'est pas bien drôle d'être seule, mais à côté de ça, j'aime encore mieux être seule que d'être passée dans une maison de retraite. Autant rester chez soi. En communauté comme ça, en dortoir, ça ne va pas.
Enfin, il vaut mieux être ici avec d'autres que d'être toute seule.
Hein. Oh oui, si vous voulez me chauffer toute seule.
Bon, ma foi.
Elles sont là, il faut s'en occuper jusqu'à la fin. Ouais. Tant qu'il y a de la vie, il faut s'en occuper.
Dans le dernier épisode de notre série « Habiter et vieillir à Rennes », nous avons découvert le maintien à domicile avec le CCAS de Rennes. Aujourd'hui, pour ce dernier épisode, nous allons nous intéresser à l'accueil familial. Peu connu, l'accueil familial consiste à accueillir chez soi une ou plusieurs personnes âgées ou en situation de handicap qui ont besoin de soutien et d'accompagnement. Nous partons à la rencontre de Cécile Larose, Patrice Pochon et Patrick Soufflet qui vivent ensemble dans le cadre de l'accueil familial.
Moi, c'est Monsieur Pochon Patrice. Je m'occupe de tout le système location de véhicules pour Contact Automobile à Rennes. Alors aujourd'hui, on se trouve à l'Ermitage sous un soleil radieux, n'est-ce pas? C'est super. Et du coup, je vais parler un petit peu de la famille d'accueil. Parce que nous, ça fait depuis le mois de janvier, on a un premier accueilli à domicile en permanence. Alors l'accueil familial, en fait, c'est un peu complexe parce qu'on peut avoir des personnes à mi-temps ou à quart-temps ou à plein temps. Donc du coup, nous, on a choisi d'être famille d'accueil à temps complet pour des personnes en difficulté, soit mobilité réduite ou qui n'ont pas de famille du tout. On a démarré à voir Patrick, on l'a eu à laisser quelques temps pour voir si ça pouvait nous convenir, déjà dans un premier temps. On a eu une période d'essai de 15 jours, renouvelable, et après on a pris la décision d'accueillir Patrick avec nous à temps complet. On a choisi de faire l'accueil familial parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens maintenant à notre époque qui sont trop rejetés au niveau de la société, et j'estime que nous, on est en forme et on peut leur donner un espoir de vie meilleure. Et c'est un peu notre but.
Et comment vous avez entendu parler de ce système d'accueil familial, du coup ?
Alors moi, je connaissais des gens qui faisaient déjà ça. Et j'ai une de mes filles qui fait aussi l'accueil familial, qui, elle, a 3 personnes à temps complet. C'est sa grand-mère à ma fille faisait ça aussi. C'est ce qui nous a donné aussi l'envie de faire famille d'accueil aussi. Au quotidien, on installe quelques règles à la base, parce qu'on a notre espace, nous, commun. Il a son espace à lui. Il a le droit de faire des choses dans son espace. Et nous, on a notre espace privé où on a aussi le droit d'être un peu ensemble régulièrement. Et lui, du coup, il n'empiète pas sur ça. On prend tous les repas ensemble. Par contre, une fois qu'il a fini de manger ou autre, il retourne dans son espace à lui. S'il veut redescendre, il redescend quand il veut, il n'y a aucun problème. C'est notre premier accueilli, en fait, il a besoin de beaucoup de présence. Et c'est une personne qui a été seule très longtemps, et il a perdu ses parents très 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 jeunes, donc il a été mis en famille d'accueil très jeune, pendant pratiquement toute sa vie. Pas tout à fait, parce qu'il a eu son propre appartement quand même, à une période de sa vie. Et c'est une personne qui, quand même, est très vulnérable. Donc, il y a des personnes qui ont profité de lui. Et du coup, il a été mis sous curatelle par rapport à ça et replacé en famille d'accueil parce que les gens ont profité de lui.
Votre rôle à la maison, c'est à la fois de pouvoir l'accompagner dans ses démarches.
Voilà, dans toutes ses démarches, aussi bien médicales que tout, faire les achats, les courses, il vient avec nous faire les courses, il choisit aussi ses produits alimentaires qu'il aime. Il a un problème, Patrick, lui, il a tendance à faire des fausses routes, donc il faut faire très attention à ça, parce qu'il faut le gérer quand il mange. Récemment, il nous a fait quelque chose qu'on n'était pas vraiment au courant, parce que quand on nous met quelqu'un, ils ont forcément un suivi médical et psychologique, mais on ne nous dit pas tout au départ. Et on découvre après. Et ça, c'est un peu gênant parce qu'en fait, on est devant le fait accompli au moment où on ne s'y attend pas.
Et est-ce que vous aviez de l'appréhension au début pour la rencontre ou vous aviez hâte de commencer ce projet?
Ah non, on avait hâte parce qu'on était vraiment prêts. Donc c'était un projet qu'on avait déjà en tête depuis un certain nombre d'années. Ce qui a changé dans notre mode de vie, ben, je vous dirais honnêtement, rien. Rien, parce qu'on continue à vivre comme on le faisait nous avant. Et je pense que Patrick, lui, il s'adapte à nous. Il est ravi parce que franchement, nous, c'est convivial. On reçoit du monde à la maison, il participe, il est avec nous. On l'emmène avec nous quand on se déplace. Il partira en vacances avec nous. Ça ne nous dérange aucunement et on fait ça comme ça avec le plaisir.
Est-ce que vous avez pour projet du coup d'accueillir d'autres personnes que Patrick ?
Oui, tout à fait. Donc du coup, c'est pour ça que l'ATI, les personnes responsables de cette activité, sont revenues revoir la maison pour voir si on pouvait avoir un deuxième accueilli. Et là, l'objectif a été accompli puisqu'on a une autorisation qui a été approuvée. Donc on attend l'accord définitif. Et je pense qu'on risque d'avoir une deuxième personne au mois de septembre. À l'issue, on va voir aussi comment Patrick, lui, va s'adapter aussi avec l'autre personne. Alors ça peut lui faire aussi beaucoup de bien dans le sens où ils vont pouvoir communiquer ensemble, être plus ensemble souvent. parce qu'on leur a créé un espace vraiment libre là-haut. Nous, en fait, c'est notre démarche à nous. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient le faire ou qui ne sont pas au courant, qui ne connaissent pas cette activité-là. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup d'autres personnes, d'autres couples qui peuvent le faire, bien entendu. Hein. Au contraire, c'est de donner un espoir aux personnes du coup à mobilité réduite, comme Patrick ou autre. Quoi.
C'est quelque chose que vous prévoyez vraiment de faire sur le long terme,
ah
vous,
oui, tout
dans
à
votre
fait.
Famille.
Ah ouais. Oui, tout à fait. Oui. Mm. Oui, oui. Là, on a pris cette décision-là. Et oui, on va le faire. Et même si, après, dans un temps futur, si on peut avoir même, je dirais, si c'est deux ou trois personnes, on aura trois personnes à domicile en permanence.
Je suis Monsieur Soufflet Patrick, j'ai 64 ans du 23 mai, le jour de l'interview, et tout va bien. Ouais.
Et est-ce que ça fait longtemps que vous êtes dans cette famille d'accueil ?
Depuis le mois de janvier.
Et comment est-ce que ça se passe pour l'instant ?
Bien, je fais des activités, je vais au GEM ou à l'autre regard, quoi, à la mi-journée, le vendredi. Autrement, je vais au bourg le matin, je prends une petite consommation et... Je reviens.
Est-ce que vous étiez dans d'autres familles d'accueil avant ?
Oui, à Redon, à Saint-Ganton, voilà. Et Grand Fougeray. Je suis resté 2 ans au Grand Fougeray. Je suis resté à Saint-Ganton pas mal de temps.
C'était mieux d'être à Rennes ?
Oui, oui, oui.
Ça vous permettait de faire quoi, par exemple ?
Ben, d'aller voir mes amis. Enfin, j'ai pas beaucoup d'amis, j'en ai qu'un seul. Qui habite là où j'habitais avant. Qui était mon voisin.
Et qu'est-ce qui vous plaît dans le fait d'être en famille d'accueil ?
D'être entouré. La solitude aussi, ouais. Ça pesait tout seul dans l'appartement.
C'est quoi que vous faites ensemble, du coup, dans la famille ?
On joue au palais, il y a la des belote. Gagnants, il y a à la belote aussi, ouais, c'est souvent le vendredi, non ?
Oui.
Ouais.
Est-ce que dans les autres familles d'accueil, vous étiez avec d'autres résidents aussi ?
Oui.
Et ça se passait bien d'être avec
ouais,
d'autres personnes ?
Ça se passait bien, ouais. Ouais. Ça fait un échange, on peut discuter.
Pour les personnes qui ont plus de 60 ans, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne solution, le fait de vivre en famille d'accueil ?
Oui, oui, oui. Plutôt que d'aller en maison de retraite, quoi.
Là, j'ai la chambre à Patrick. C'est sa chambre à lui, personnelle. C'est lui qui choisit ses couleurs, parce qu'il avait le choix avec plusieurs chambres. Ça, c'est leur petit coin salon. Et ils ont aussi une salle de bain à l'étage. Ça, c'est la chambre qui est prête pour un deuxième accueil. Et puis ça, c'est une salle où ils peuvent aussi faire ce qu'ils veulent, jouer, ou s'isoler un petit peu, écouter de la musique.
Je m'appelle Madame Larousse Cécile, et mon activité, je suis famille d'accueil pour personnes en mobilité réduite. Ça consiste à aider des personnes qui sont dans le besoin, qui ont besoin d'aide et puis qui ont besoin d'un soutien, et de pouvoir les aider dans la vie quotidienne, et de pouvoir les relancer un peu aussi, à pouvoir rire et surtout avoir un peu de bonheur. Alors on a fait une formation à Ascoria, on a été très très bien accueillis à Ascoria. La formation s'est très très bien passée, ils ont été très présents pour nous, on a gardé un bon contact. On essaye de se faire une fois par mois avec les accueillants et les accueillis. On se fait une réunion ensemble, on se fait un repas ensemble pour qu'on ne perde pas ce lien.
Est-ce que ce sont des personnes qui accueillent d'autres personnes avec des profils différents que vous, par exemple ?
Oui, ils ont tous une pathologie complètement différente. Mais ça nous permet aussi de pouvoir, si un jour on est confronté à la même pathologie, ça va peut-être nous aider aussi à nous, et vice versa dans l'autre sens. Le fait que l'agrément ait été fait en couple, on le reste en couple. Si il y en a un des deux qui ne veut plus au niveau de l'agrément, on refait l'agrément mais seul. Mais nous, c'était notre choix de le faire agrément en couple.
Ça vous permet aussi de pouvoir construire ensemble, hein, enfin, d'être ensemble sur le projet.
Voilà, et d'être épaulé aussi, parce que Des fois, c'est bien d'être à deux, que ce soit monsieur qui s'en occupe un petit peu. Et que, parce que moi, il y a des choses, comme c'est un homme, que moi, il y a des choses que je ne peux pas faire avec lui, que monsieur peut faire.
Vous, pourquoi est-ce que vous avez choisi l'accueil familial? C'était une volonté particulière?
Alors moi, c'était surtout un choix de ma part, parce que j'ai mon frère qui est dans ce problème-là. Et du coup, c'est pouvoir l'aider lui aussi après.
Et pour l'instant, il y a beaucoup de logements d'accueil familial?
Très peu. D'après ce que j'ai compris, il y a énormément de demandes que de familles. Ça manque de familles pour ces gens-là. Les gens ne connaissent pas forcément ce que ça veut dire accueil familial, parce qu'on ne les renseigne pas assez.
Justement, on a l'impression des fois que quand on entend famille d'accueil, on entend beaucoup plus pour les enfants que pour les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap.
C'est ça, oui. Alors que il n'y a pas que les enfants qui ont besoin. Il y a aussi les adultes, les personnes âgées.
Pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'une cohabitation se passe bien dans un accueil familial ?
De la confiance, de l'honnêteté, de la confiance. Et puis, on est là pour le faire progresser. S'il n'y a pas d'envie, on n'avance pas. Je veux les aider du début jusqu'à la fin. On le considère comme une personne de la famille. Il est présent tout le temps. On est invité, il est invité. Il fait partie entièrement de la famille.
Camille Rioux, bonjour.
Bonjour.
Camille Rioux, je vous présente, vous êtes chargée de mission, service offre, accompagnement, ressources des établissements et service direction de l'autonomie du département d'Ille-et-Vilaine. Ensemble, on va parler aujourd'hui de l'accueil familial des personnes âgées. Alors l'accueil familial, ce sont des particuliers qui sont agréés par le conseil départemental, qui accueillent à leur domicile des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap. Est-ce que c'est bien ça?
Oui, tout à fait. L'objectif est de maintenir leur autonomie.
D'une façon générale, quels sont les profils des personnes âgées qui demandent à être accueillies dans une famille ?
Paradoxalement, le dispositif a été conçu effectivement pour les personnes âgées, mais notre grande majorité sont les personnes en situation de handicap. Les personnes accueillies, elles viennent chercher de l'aide à l'autonomie pour les gestes du quotidien, une vie familiale, un cadre bienveillant, être intégrée dans une famille, de nouer une relation forte avec la personne accueillante, sa famille. On a aussi des accueillants qui ont des enfants, c'est participer à la vie familiale.
Est-ce que ce sont des personnes qui sont dans des situations de grande dépendance ou pas forcément ?
Alors, on a une limite quand même sur la dépendance, c'est le maintien à domicile. Dans le cadre de l'accueil familial, on peut avoir des aides techniques comme un lit médicalisé, mais il faut avoir conscience que c'est le domicile d'un particulier. Donc, il n'est pas équipé pour une grande dépendance.
Pourquoi est-ce que les personnes se dirigent vers l'accueil familial? Est-ce que, par exemple, c'est moins cher qu'une structure en hébergement ou pas forcément?
La motivation n'est pas financière, à mon sens. C'est vraiment une offre complémentaire. On n'est pas dans un accueil collectif. Le collectif ne convient pas à tout le monde. On vient plutôt chercher quelque chose de plus simple, mais qui répond vraiment à ses besoins, parce que l'accueillant s'adapte aux besoins de la personne accueillie. Et puis dans les accueils, on a des accueillants qui habitent à la campagne, d'autres qui habitent un petit peu plus dans les bourgs, dans les centres-bourgs. On peut aussi se déplacer effectivement comme on veut. Enfin, voilà.
L'adresse a récemment évalué à 9,3 millions le nombre d'aidants auprès des personnes handicapées ou en perte d'autonomie en France en 2021. Est-ce que l'accueil familial, c'est une alternative qui peut aussi venir en soutien aux aidants, ou est-ce que c'est encore une pratique qui est peu connue et peu accessible, auquel on ne pense pas forcément en tant qu'aidant familial?
Alors, effectivement, je pense que c'est très peu connu. L'accueil familial offre une souplesse d'accueil, c'est-à-dire qu'on peut accueillir en contrat permanent, en contrat temporaire, on peut aussi faire de l'accueil de jour, et ça permet effectivement de faire du répit pour les aidants familiaux. C'est-à-dire qu'eux-mêmes peuvent faire appel à de l'accueil familial. C'est très souple, hein, ça peut être une journée par semaine, une journée par mois. Il suffit de faire une demande auprès du département et ensuite, selon les possibilités, on peut mettre en place le dispositif.
Comment est-ce qu'on peut devenir accueillant familial aujourd'hui ?
C'est une procédure administrative. Il faut faire un dossier de demande auprès du département. Ensuite, le département vous renvoie le dossier, on instruit, c'est-à-dire qu'une évaluation médico-sociale et psychologique pendant 4 mois, un examen en commission, et puis ensuite, si l'agrément est attribué, on rentre en formation initiale. Il n'y a pas de condition de diplôme pour être accueillant. Une fois qu'on a l'agrément, donc il faut répondre aux exigences du référentiel d'agrément. On a une formation initiale de 54 heures pour connaître le métier. On se lance et on est bien sûr accompagné par une équipe des services référents.
Comment est-ce que ça se passe aujourd'hui pour la rémunération ?
Alors c'est un contrat de gré à gré entre la personne accueillie et la personne accueillante. Donc c'est la personne accueillie qui rémunère son accueillant. La rémunération, elle tourne autour de 1800 euros pour l'accueillant lorsque c'est un accueil permanent à temps plein. C'est-à-dire que la personne est là tous les jours tous les jours du mois et toute la journée. Ça comprend donc les indemnités de logement et le repas.
Le métier d'accueillant familial, c'est toujours aujourd'hui un métier qui est assez précaire puisqu'il est assez peu reconnu. Il demande aussi une adaptation à des situations très variées. Or, justement, pour sortir de la dualité entre un maintien à domicile total ou un hébergement institutionnel, il faut déterminer une vraie politique autour du statut et du salaire de l'accueillant familial. Comment aujourd'hui est-ce qu'on peut faire avancer justement ce statut et ce projet d'accueil familial?
Effectivement, il y a de la précarité quand on est accueillant familial. Si on n'a pas d'accueil, on n'a pas de rémunération. Il y a des démarches en cours au niveau national. Il y a des accueillants qui se regroupent en association, notamment pour faire avancer le statut.
Il y a actuellement 8400 accueillants familiaux au niveau national. C'est un chiffre qui a chuté de environ 10% en 3 ans et environ 13 000 accueillis. Donc c'est des personnes âgées, mais c'est surtout aussi des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, dans le département d'Ille-et-Vilaine, est-ce qu'on fait le même constat par rapport à la moyenne nationale en termes de chute ou est-ce qu'au contraire, il y a de plus en plus de personnes qui se mettent à faire de l'accueil familial?
Effectivement, on a perdu des familles parce qu'on avait un groupe de familles assez âgées qui sont parties en retraite. Et là, par contre, on a des nouvelles familles qui arrivent avec des profils différents. Soit c'est une reconversion professionnelle, soit c'est des personnes qui sont issues déjà du médico-social et qui veulent exercer leur métier autrement. Mais là, ça va remonter cette année.
Est-ce que votre rôle, c'est de les accompagner tout du long, un peu juste au début? Comment est-ce que vous faites
Les nouveaux accueillants, oui, sont accompagnés dès le départ, donc déjà quand on les rencontre pour faire l'évaluation. Puis ensuite, ils rentrent en formation et là, il y a une équipe donc sur le département, ce qu'on appelle nos services référents qui sont répartis dans 5 institutions, qui suivent les accueillants pour mettre en place les accueils, qui présentent les futures personnes accueillies et ensuite qui sont présents pour la mise en place de l'accueil, pour répondre à toutes les questions, puis faire en sorte que l'accueil se passe bien, que les accueillants et les accueillis s'épanouissent dans ce mode de vie.
C'est plutôt des personnes accueillantes qui souhaitent venir d'abord vers vous, c'est plutôt des personnes accueillies?
Oui, alors on a toutes les situations possibles. En fait, effectivement, les accueillants peuvent prendre contact avec nous et puis les personnes qui souhaitent être accueillies en accueil familial, en fait, font aussi une demande auprès du département et chargent donc à l'équipe de services référents de mettre en relation les accueillants et les accueillis pour faire en sorte que les accueils se passent bien.
Pour les personnes âgées en général, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent l'accueil familial?
Effectivement, c'est un dispositif qui est peu connu. C'est souvent du bouche à oreille. Là, on lance une campagne de communication donc dans les médias départementaux. On veut faire connaître le dispositif et c'est vraiment offrir une autre perspective qu'un établissement. On a étoffé notre offre de formation pour les accueillants. On travaille pour informer donc à la fois les établissements médico-sociaux, les particuliers et puis nos relais aussi donc dans les clics sur le territoire.
Merci à Cécile Larose, Patrice Pochon, Patrick Soufflet et Camille Rioux pour ce reportage. C'était le dernier épisode de notre série Habiter et vieillir à Rennes. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver une interview d'Armelle Billard, vice-présidente du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine et déléguée aux personnes âgées et au handicap, en complément de cette série. Go par Damien Maître, une nouveauté musicale qui a été sélectionnée par notre programmateur Yann, un extrait de l'album A Short Eternity qui est paru le 8 juin chez 3615 Records. Damien Maître, c'est un auteur et compositeur rennais qui est installé ici depuis quelques années. Il a longtemps vécu au Canada avant ça et dans cet album Conte, en 20 morceaux, il propose une chronique d'un cycle entier, de l'insouciance à l'espoir, puis de l'attente au deuil jusqu'à la lente soif de renouveau. Vous écoutez Canal B sur le 94.0, peut-être en ligne sur notre site canalb.fr. C'est l'heure de l'interview que vous a promise Elvire Moreau il y a un instant. Elvire qui est volontaire en service civique.
Dans notre série Habiter et vieillir à Rennes, nous avons exploré différentes manières de se loger lorsqu'on est une personne âgée. Aujourd'hui, je vous propose une interview bilan de cette série avec Armel Billard, où il sera aussi question de l'accueil familial et du logement des personnes âgées en Ille-et-Vilaine. Bonne écoute. Armel Billard, bonjour.
Bonjour.
Armel Billard, je vous présente. Vous êtes vice-présidente du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, déléguée aux personnes âgées, au handicap et à la MDPH, donc c'est la maison départementale des personnes handicapées. Ensemble, nous allons parler aujourd'hui du logement des personnes âgées et de l'accueil familial. Le rôle du conseil départemental auprès des personnes âgées, c'est à la fois une participation au financement des politiques en faveur des aînés, c'est aussi un travail d'information auprès de ce public et c'est aussi lui qui pilote la politique de prise en charge des personnes âgées, que ce soit dans le cadre du maintien à domicile ou au sein des structures médico-sociales. Armel Billard, est-ce que vous pouvez préciser peut-être ?
Alors, vous avez très bien synthétisé l'ensemble des missions du conseil départemental au sujet des personnes âgées, mais il s'agit plutôt aussi des personnes âgées dépendantes qui perdent en fait de leur autonomie à cause de leur âge. C'est-à-dire que toutes les personnes âgées du département n'ont pas affaire au conseil départemental. Le conseil départemental est la collectivité qu'on appelle des solidarités, à la fois humaine et territoriale, et c'est une collectivité qui est là pour compenser des problématiques soit sociales, soit de santé, donc en ce qui concerne les personnes âgées, de la perte d'autonomie. Nous sommes là pour mobiliser l'ensemble des moyens communs pour que ces personnes vivent le mieux possible leur vieillesse, que ce soit à domicile ou bien en établissement.
Dans le projet de mandature de 2021, le conseil départemental s'était engagé sur plusieurs plans vis-à-vis des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, et en particulier sur le logement, avec un renforcement de l'offre en établissement pour les personnes âgées. Pour l'instant, qu'est-ce qui a été décidé de mettre en place concernant ces places en établissement médico-sociaux ?
Alors, nous sommes en train justement de travailler sur ce qu'on appelle le schéma départemental de l'autonomie, c'est-à-dire la feuille de route, le cadre de travail que se donne le conseil départemental pour l'ensemble des politiques de l'autonomie pour les personnes âgées, mais également pour les personnes en situation de handicap, avec des engagements très précis en termes d'ouverture de places en établissement et en service. En ce qui concerne les personnes âgées, ce sur quoi on insiste plus particulièrement, c'est d'essayer au maximum de veiller à ce que les personnes puissent vivre à domicile le plus longtemps parce que c'est leur souhait. Vous savez, aujourd'hui, dans ce qu'on appelle l'allocation pour l'autonomie, c'est-à-dire cette allocation qui permet aux personnes d'être le plus autonome possible à domicile ou en établissement, est versée pour moitié à des personnes qui restent à domicile et pour moitié à des personnes qui sont en établissement. Ça fait à peu près 10 300 personnes pour le domicile, 10 400 pour les personnes qui sont en établissement, donc en EHPAD. Et donc, l'objectif aujourd'hui du département, c'est d'assurer l'augmentation des moyens due à cette grande montée démographique, en fait, des personnes de plus de 75 ans, et en parallèle, eh bien, de pouvoir travailler sur la prévention au maximum pour ces personnes afin qu'elles gardent leur autonomie le plus longtemps possible. Vous annoncez aujourd'hui le nombre de services, de places de services en plus que l'on va ouvrir. Je n'ai pas ici le chiffre, mais c'est quand même de permettre cet accompagnement de l'évolution démographique. Ça, c'est très important. Et également, ce souhait d'être le plus longtemps possible à domicile. Ce qui fait que dans les EHPAD, il va y avoir des personnes qui seront plus dépendantes qu'encore aujourd'hui. En Ille-et-Vilaine, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le GIR moyen pondéré, un peu plus faible que dans d'autres départements, mais cette dépendance va augmenter au fur et à mesure, et donc les EHPAD vont devoir s'adapter.
Vous l'aviez souligné, justement, un des objectifs du conseil départemental, c'est de favoriser le bien vieillir à domicile. Vous avez dit aussi qu'il y avait des personnes qui exprimaient de plus en plus une volonté de vieillir chez elles. Par exemple, en 2017, l'INSEE a repéré qu'il y avait 84% des personnes de plus de 60 ans qui exprimaient cette volonté-là. Alors, à la fois, oui, c'est un choix personnel, des fois c'est une volonté politique face à des manques de place dans des structures. Est-ce que vous avez ressenti un désir fort de logement alternatif à l'EHPAD chez les publics quand vous les rencontrez ?
En fait, vous avez deux choses. Vous avez des personnes qui veulent vivre à domicile parce qu'on a tous notre chez-soi et que c'est très humain de vouloir vivre le plus longtemps chez soi. Comme on dit même, mourir chez soi, c'est vraiment quelque chose d'humainement très très important. Le département, bien sûr, veut accompagner ce mouvement vers plus d'accompagnement à domicile, mais parfois, c'est pas forcément très bon pour la personne de rester chez soi. Donc, c'est bien sûr et avant tout à elle de le décider. Quelquefois, il y a son entourage aussi, c'est souvent les enfants, qui craignent pour leurs parents. C'est un choix de famille aussi. Et nous, on est là pour accompagner, grâce à nos conseillères sociales en gérontologie, pour accompagner les familles dans ce parcours, dans ce choix aussi de parcours. Et puis, vous avez des personnes qui souhaitent vraiment aller en EHPAD parce que elles ne sont plus sécurisées chez elles. Elles se disent, moi, je veux plus vivre à la maison, je suis trop isolée. En EHPAD, j'ai ma copine qui est allée en EHPAD. Finalement, elle est très bien. Elle a même repris de la santé parce qu'en EHPAD, on est très bien accompagné. On va être bien nourri, on va être bien accompagné, on va être sollicité par des jeux, par des activités adaptées, etc. Et ça, donc, il y a aussi une part des personnes qui est très volontaire. Le problème, c'est que les EHPAD subissent en fait une image qui est vraiment mauvaise aujourd'hui à cause des grands scandales qu'il y a pu y avoir avec Orpea, par exemple. Alors même qu'il y a un très beau travail qui est fait dans les EHPAD et que de très nombreux EHPAD accompagnent de façon vraiment à la fois humaine et puis même au niveau médical, de façon extrêmement de qualité, même si il faut faire attention. Parfois, dans certaines gestions d'établissements, il y a en effet des déviances. mais il faut quand même voir qu'une très grande majorité d'EHPAD est de très bonne qualité. Le fait qu'il y ait cette mauvaise image aussi, on se dit ben finalement l'EHPAD, j'ai peur de pas forcément être très bien traité, et en plus c'est ma dernière demeure, ça préfigure en fait la mort. Et donc c'est pour ça, quand on demande aux personnes est-ce que vous voulez aller en EHPAD, ben non, parce que personne n'a envie de mourir. Donc il y a tous ces sujets là qui sont extrêmement importants à aborder pour les personnes qui perdent en autonomie et qui veulent avoir le choix de leur domiciliation en EHPAD ou autre. Et en effet, vous avez des nouvelles formules, comme on appelle, des nouvelles offres d'habitation qui sont à la fois pas un EHPAD parce qu'il n'y a pas d'étayage sanitaire aussi important, et mais plus que du domicile parce que ce sont par exemple des habitats qu'on appelle inclusifs, des regroupements soit d'appartements, soit de maisons, qui permettent aux personnes âgées isolées d'être plutôt accompagnées et de pouvoir bénéficier d'une vie sociale partagée, selon qu'ils ont envie ou pas. Cette vie sociale partagée, c'est ce qui fait le cœur de ce qu'on appelle l'habitat inclusif, et une partie de la personne qui va travailler sur ce projet de vie sociale et qui va l'animer est financée pour une part par le département. Et ça, maintenant, c'est officiel, c'est aussi l'État qui finance. Avant, c'était que le département, puisque le département d'Ille-et-Vilaine a été précurseur sur cette offre d'habitat inclusif.
Un autre domaine dans lequel le conseil départemental intervient, c'est l'accueil familial. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer en quoi il consiste ?
Les accueillants familiaux, ce sont des familles qui souhaitent ou qui ont pour vocation d'accueillir dans leur famille une personne en situation de handicap ou bien une personne âgée. C'est une autre possibilité aussi de pouvoir vieillir non isolé, dans une famille. Nous, en fait, le conseil départemental, par rapport aux accueillants familiaux, on agit surtout parce que on délivre une prestation, qui est par exemple l'allocation pour l'autonomie, ou la PCH, la prestation compensatrice du handicap pour les personnes en situation de handicap, qui permet à la personne de rémunérer cette offre, cette famille d'accueil. Hein. C'est vraiment du gré à gré. Donc les accueillants familiaux, c'est en fait, dans le droit du travail, une profession, on va dire, libérale, si vous voulez. Mais nous, ce que l'on souhaiterait, et nous avons pu en discuter avec les accueillants familiaux, c'est de sécuriser le statut des accueillants familiaux. Parce qu'on trouve que c'est une très belle idée aussi pour la personne handicapée ou pour la personne âgée de vivre dans une famille. Mais encore faudrait-il que la famille qui accueille puisse être sécurisée quand, par exemple, la personne, hélas, la personne vieillissante décède, alors qu'il puisse toucher un peu de chômage, comme des salariés normaux, hein, qui touchent du chômage, en attendant de recevoir une nouvelle personne. C'est vraiment un statut extrêmement précaires parce qu'ils n'ont même pas de vacances. Ou alors, il faut que la personne âgée puisse avoir, pas très loin, un accueil de jour. Et c'est là que le département intervient pour financer, par exemple dans un EHPAD, un accueil de jour, des places d'accueil de jour, avec en lien bien évidemment avec l'ARS. N'oubliez de le dire, le département veille à ce que ces accueillants familiaux qui accueillent des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap aient un minimum requis au niveau matériel dans leur maison ou dans leur appartement, et également des postures et un savoir-faire pour bien accueillir la personne. Et c'est grâce à ce contrôle, en tout cas, qu'ils vont avoir ou pas un agrément pour une ou deux personnes. Donc, le conseil départemental délivre ces agréments. Et puis, est là aussi en soutien en termes de formation pour que ces accueillants familiaux puissent exercer dans les meilleures conditions possibles leur métier.
Est-ce que pour vous, ces alternatives dont fait partie, par exemple, l'accueil familial, peuvent s'avérer être des réponses pérennes face au vieillissement de la population, ou bien y a-t-il encore beaucoup d'enjeux à traverser au sein de ces alternatives ?
Oui, alors il y a plusieurs choses, en fait, et c'est vrai que dans le schéma autonomique qu'on est en train de rédiger là, en ce moment, on souhaite en effet développer toute une palette d'offres. Parce que sinon, permettre à toute personne de vieillir selon son choix, là où elle veut et comme elle peut, par rapport notamment à ses moyens financiers, ça ne peut être qu'une injonction. Si on dit c'est soit à domicile, soit en EHPAD, il faut qu'on l'en puisse, et dans le domicile, donc étayer au maximum, et à l'EHPAD, voir jusqu'où on peut aller, offrir différentes solutions, différents autres modèles. Et ça, ça doit vraiment se développer. Donc on a besoin en fait de tous les partenaires pour innover aussi au sein des territoires. Et puis on n'a pas la même offre que l'on soit dans le pays de Fougères, de Dole, de Saint-Malo, de Combourg, de Redon ou de Rennes ou de Vitré. Donc chaque bassin de vie est un petit peu à son histoire, à son offre, à sa culture aussi. On n'est pas un territoire homogène et cette diversité est une véritable richesse. Nous, le département, on doit accompagner le développement d'offres, comme on appelle les offres alternatives. Mais par exemple, pour les accueillants familiaux, premièrement, il faudrait qu'ils aient un statut plus sûr. Donc nous, on était prêts, on avait même interpellé le gouvernement pour dire qu'on était prêts à expérimenter des accueillants familiaux salariés, les aider aussi à se regrouper en tant que métier et faire valoir véritablement et leurs droits et aussi leur volonté et leurs besoins. Et en même temps, au-delà de ça, c'est faire connaître ce dispositif parce qu'il n'est pas très connu. Donc là, nous, on a ce devoir-là aussi de faire connaître. Alors pour nous, on y croit vraiment. C'est une véritable alternative. Mais il manque de vocation. Hein. Aujourd'hui, on a à peu près environ 230 familles agréées sur tout le département, qui représentent un peu plus de 300 personnes qui sont accueillies chez des accueillants familiaux. Il en faudrait beaucoup plus. J'ai pu recevoir un collectif de ces accueillants familiaux il n'y a pas très longtemps et ils s'inquiètent aussi parce qu'il y a peu de personnes jeunes qui ont cette vocation d'accueil familial. D'un autre côté, pour être accueillant familial, il faut avoir une certaine maturité, il faut avoir aussi un peu vécu pour accueillir des personnes âgées à domicile, ainsi que des personnes en situation de handicap.
Armelle Vierge, je vous représente, vous êtes vice-présidente du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, déléguée aux personnes âgées, au handicap et à la maison départementale des personnes handicapées. Ensemble, nous avons parlé aujourd'hui du logement des personnes âgées et de l'accueil familial. Merci beaucoup pour cette interview.
Merci à vous.
Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots. Des mots, comme à la radio. Ça ne dérangera pas, ça n'empêchera pas de jouer aux cartes. Ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute. Ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, juste pour faire du bruit. Le silence est atroce. Quelque chose est atroce aussi. Entre les deux, c'est la radio. De juste un peu de bruit pour combler le silence. De juste un peu de bruit et rien de plus. De juste un peu de bruit, n'ayez pas peur, ce sera tout à fait comme écrasés sur les routes. À cette minute, un médecin alcoolique jurera au-dessus du corps d'une jeune fille et il dira: elle ne va pas me claquer entre les doigts, la garce. À cette minute, cinq vieilles dans un jardin public entameront la question de savoir s'il est moins 20 ou moins 5. À cette minute, des milliers et des milliers de gens penseront que la vie est horrible et ils pleureront. À cette minute, deux policiers entreront dans une ambulance et ils jetteront dans la rivière un jeune homme blessé à la tête. À cette minute, une vieille dame ivre morte gémira seul au dernier étage, sous son lit, et ne pourra plus bouger. À cette minute, un Français sera bien content d'avoir trouvé du travail. Il fait froid dans le monde. Il fait froid. Il fait froid. Ça commence à se savoir. Et il y a des incendies qui s'allument dans certains endroits parce qu'il fait trop froid. Traducteur, traduisez. C'est que la radio, il ne peut rien s'y passer, rien ne peut avoir d'importance, ce n'est rien, ce n'était rien, juste pour faire du bruit, juste de la musique, juste des mots, des mots. Des mots, des mots, des mots, des mots, des mots. De juste un peu de bruit, de juste un peu de bruit, de juste un peu de bruit.
Brigitte Fontaine, comme à la radio. C'est un morceau qui vient de l'album du même nom, le troisième disque de la chanteuse, enregistré en 1970 et sorti sur le label Sarava, juste après une série de concerts dans un théâtre parisien, en compagnie notamment d'Areski Belkacem, qui sera son compagnon de route à la ville et à la scène pour un petit moment. Vous êtes dans l'arène à l'émission d'information locale de Canal B. On poursuit et termine avec la recommandation du jour. Et oui, on arrive à la fin de l'émission d'information locale, mais avant de vous laisser, comme chaque jour, une recommandation, ça va pas être très original, mais demain, mercredi 21 juin, c'est la traditionnelle fête de la musique dont l'institutionnalisation en France remonte au début des années 80. À Rennes, les festivités débuteront sur les coups de 18h, tous les genres seront présents sur 3 scènes officielles et dans 19 bars et restaurants. Il y a aussi d'autres lieux partenaires à retrouver, avec la possibilité pour les habitants de lancer également des propositions spontanées dans l'espace public. Programmation complète à retrouver en ligne sur le site metropole.rennes.fr. Cette fête de la musique, elle s'étendra jusqu'à 1h du matin et donc exceptionnellement, le métro circulera toute la nuit et les bus jusqu'à 1h35 ou 5h selon la ligne. Focus sur une proposition de la région Bretagne qui accueillera le groupe électro-jazz breton Fleuve, un trio qui, en 10 ans d'existence, a sorti 2 albums. Rendez-vous pour les écouter à l'hôtel de Courcy à 20h. C'est la première fois que ce lieu, classé monument historique où se déroulent les séances du Conseil régional, accueille un concert gratuit à cette occasion. L'entrée est libre, sans réservation, mais dans la limite des places disponibles. Il est précisé que l'accès est difficile pour les personnes à mobilité réduite.
c'est terminé. Une émission d'information locale à écouter du lundi au vendredi à 17h et puis en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour les podcasts, ça se passe sur le site canalb.fr. Je vous dis à très bientôt sur Canal B.